Bonjour, chers auditeurs de la web radio 8e R. Aujourd'hui, encore une nouvelle soirée exceptionnelle puisque j'accueille Arnaud. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Arnaud, vous allez nous lire le discours de Robert Badinter quand il s'est présenté devant l'Assemblée nationale en tant que ministre de la Justice, garde des Sceaux, et qu'il a demandé ce jour-là l'abolition de la peine de mort, enfin, en tout cas le vote de l'abolition de la peine de mort. Voilà. Donc ce que je vous propose, Arnaud, enfin ce que vous m'avez proposé surtout vous d'ailleurs, c'est de lire ce discours, et puis ensuite nous échangerons un peu sur ce que nous avons senti. On en a déjà un petit peu parlé un petit peu avant, donc on pourra rediscuter un peu là-dessus. Arnaud, c'est à vous.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. En cet instant dont chacun d'entre vous mesure la portée qu'il revêt pour notre justice et pour nous, je tiens à remercier tous ceux, quelle que soit leur appartenance politique, qui, au cours des années passées, notamment au sein des commissions des lois précédentes, ont également œuvré pour que l'abolition soit décidée avant même que n'intervienne le changement politique majeur que nous connaissons. Cette communion d'esprit, cette communauté de pensée à travers les clivages politiques, montre bien que le débat qui est ouvert aujourd'hui devant vous est d'abord un débat de conscience. Et le choix auquel chacun d'entre vous procédera l'engagera personnellement. Une longue marche s'achève aujourd'hui. Près de 2 siècles se sont écoulés depuis que, quand dans la première assemblée parlementaire qu'ait connue la France, le pelletier de Saint-Fargeau demandait l'abolition de la peine capitale. C'était en 1791. Je regarde la marche de la France. La France est grande, non seulement par sa puissance, mais au-delà de sa puissance par l'éclat des idées, des causes, de la générosité qui l'ont emportée au moment privilégié de son histoire. La France est grande, parce qu'elle a été la première en Europe à abolir la torture, malgré les esprits précautionneux qui, dans le pays, s'exclamaient à l'époque que sans la torture, la justice française serait désarmée, que sans la torture, les bons sujets seraient livrés aux scélérats. La France a été parmi les premiers pays du monde à abolir l'esclavage, ce crime qui déshonore encore l'humanité. Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d'efforts courageux, l'un des derniers pays, presque le dernier, et je baisse la voix pour le dire, en Europe occidentale, dont elle a été si souvent le foyer et le pôle à abolir la peine de mort. Pourquoi ce retard? Voilà la première question qui se pose à nous. Ce n'est pas la faute du génie national, c'est de France, c'est de cette enceinte, souvent, que se sont levées les plus grandes voix, celles qui ont résonné le plus haut et le plus loin dans la conscience humaine. Celles qui ont soutenu avec le plus d'éloquence la cause de l'abolition. Vous avez fort justement rappelé Hugo. J'y ajouterai parmi les écrivains Camus. Comment, dans cette enceinte, ne pas penser aussi à Gambetta, à Clémenceau, et surtout au grand Jaurès? Tous se sont levés. Tous ont soutenu la cause de l'abolition. Alors pourquoi le silence a-t-il persisté? Et pourquoi n'avons-nous pas aboli? Je ne pense pas non plus que ce soit à cause du tempérament national. Les Français ne sont certes pas plus répressifs, moins humains que les autres peuples, je le sais par expérience. Juges et jurés français savent être aussi généreux que les autres. Non, la réponse n'est donc pas là, il faut la chercher ailleurs. Pour ma part, j'y vois une explication qui est d'ordre politique. Pourquoi ? L'abolition, je l'ai dit, regroupe depuis 2 siècles des femmes et des hommes de toutes les classes politiques, et bien au-delà de toutes les couches de la nation. Mais si l'on considère l'histoire de notre pays, on remarquera que l'abolition en tant que telle a toujours été une des grandes causes de la gauche française. Quand je dis gauche, comprenez-moi, j'entends force de changement, force de progrès, parfois force de révolution. Celles qui, en tout cas, font avancer l'histoire. Examinez simplement ce qu'est la vérité, regardez-la. J'ai rappelé 1791, la première constituante, la grande constituante. Certes, elle n'a pas aboli, mais elle a posé la question. Audace prodigieuse en Europe à cette époque. Elle a réduit le champ de la peine de mort, plus que partout ailleurs en Europe. La première assemblée républicaine que la France ait connue, la Grande Convention, le 4 Brumaire en 4 de la République, a proclamé que la peine de mort était abolie en France, à dater de l'instant où la paix générale serait rétablie. La paix fut rétablie, mais avec elle Bonaparte arriva, et la peine de mort s'inscrivit dans le code pénal, qui est encore le nôtre, plus pour longtemps il est vrai. Mais suivons les élans. La révolution de 1830 a engendré, en 1832, la généralisation des circonstances atténuantes. Le nombre des condamnations à mort diminue aussitôt de moitié. La révolution de 1848 entraîna l'abolition de la peine de mort en matière politique, que la France ne remettra plus en cause jusqu'à la guerre de 1939. Il faudra attendre ensuite qu'une majorité de gauche soit établie au centre de la vie politique française, dans les années qui suivent 1900, pour que soit à nouveau soumise aux représentants du peuple la question de l'abolition. C'est alors qu'ici même s'affrontèrent dans un débat dont l'histoire de l'éloquence conserve pieusement le souvenir vivant, et Barrès et Jaurès. Jaurès, que je salue en votre nom à tous, a été de tous les orateurs de la gauche, de tous les socialistes, celui qui a mené le plus haut, le plus loin, le plus noblement l'éloquence du cœur et l'éloquence de la raison, celui qui a servi comme personne le socialisme, la liberté et l'abolition. Je dois rappeler, puisque, à l'évidence, sa parole n'est pas éteinte en vous, la phrase que prononça Jaurès. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité depuis 2000 ans a pensé de plus haut et rêve de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la révolution. En 1908, Briand, à son tour, entreprit de demander à la Chambre l'abolition. Il se trouva qu'une partie de la presse entreprit aussitôt une campagne très violente contre les abolitionnistes. Il se trouva qu'une partie de la Chambre n'eut point le courage d'aller vers les sommets que lui montrait Briand. C'est ainsi que la peine de mort demeura en 1908 dans son droit et dans notre pratique. Depuis lors, 75 ans, jamais une assemblée parlementaire n'a été saisie d'une demande de suppression de la peine de mort. Je suis convaincu, cela vous fera plaisir, d'avoir certes moins d'éloquence que Briand, mais je suis sûr que vous, vous aurez plus de courage. Et c'est cela qui compte. Les temps passaient, on peut s'interroger, pourquoi n'y a-t-il rien eu en 1936 ? La raison est que le temps de la gauche fut compté. L'autre raison plus simple est que la guerre pesait déjà sur les esprits. Or, les temps de guerre ne sont pas propices à poser la question de l'abolition. Il est vrai que la guerre et l'abolition ne cheminent pas ensemble. La libération. Je suis convaincu, pour ma part, que si le gouvernement de la libération n'a pas posé la question de l'abolition, c'est parce que les temps troublés, les crimes de guerre, les épreuves terribles de l'occupation faisaient que les sensibilités n'étaient pas à cet égard prêtes. Il fallait que revienne non seulement la paix des armes, mais aussi la paix des cœurs. Et cette analyse vaut aussi pour le temps de la décolonisation. C'est seulement après ces épreuves historiques qu'en vérité pouvait être soumise à votre assemblée la grande question de l'abolition. Je n'irai pas plus loin dans l'interrogation, mais pourquoi, au cours de la dernière législature, les gouvernements n'ont-ils pas voulu que votre assemblée soit saisie de l'abolition, alors que la commission des lois et tant d'entre vous avec courage réclamaient ce débat ? Certains membres du gouvernement, et non des moindres, s'étaient déclarés, à titre personnel, partisans de l'abolition, mais on avait le sentiment à entendre ceux qui avaient la responsabilité de la proposer, que dans ce domaine, il était là encore urgent d'attendre. Attendre, après 200 ans, attendre, comme si la peine de mort ou la guillotine était un fruit qu'on devrait laisser mûrir avant de le cueillir. Attendre, nous savons bien qu'en vérité que la cause était la crainte de l'opinion publique. Or, le président de la République a fait connaître à tous non seulement son sentiment personnel, son aversion pour la peine de mort, mais aussi très clairement sa volonté de demander au gouvernement de saisir le Parlement d'une demande d'abolition s'il était élu. Et le pays lui a répondu oui. Rien n'a été fait pendant des années écoulées pour éclairer l'opinion publique. Au contraire, On a refusé l'expérience des pays abolitionnistes. On ne s'est jamais interrogé sur le fait essentiel que les grandes démocraties occidentales, nos proches, nos sœurs, nos voisines, pouvaient vivre sans la peine de mort. On a négligé les études conduites par toutes les grandes organisations internationales. On a occulté leurs constantes conclusions. Il n'a jamais, jamais été établi une corrélation quelconque entre la présence ou l'absence de la peine de mort dans la législation pénale et la courbe de la criminalité sanglante. Si vous y réfléchissez simplement, les crimes les plus terribles, ceux qui saisissent le plus la sensibilité publique, on le comprend, ceux qu'on appelle les crimes atroces, sont commis le plus souvent par des hommes emportés par une pulsion de violence et de mort, qui abolit jusqu'aux défenses de la raison. Acte instant de folie, et à cet instant de passion meurtrière, l'évocation de la peine, qu'elle soit de mort ou qu'elle soit perpétuelle, ne trouve pas sa place chez l'homme qui tue. En fait, ceux qui croient à la valeur dissuasive de la peine de mort méconnaissent la vérité humaine. La passion criminelle n'est pas plus arrêtée par la peine de la mort que d'autres passions qui le sont, qui elles sont là nobles. Et si la peur de la mort arrêtait les hommes, vous n'auriez ni grands soldats, ni grands sportifs. Nous les admirons. Mais ils n'hésitent pas devant la mort. D'autres, emportés par d'autres passions, n'hésitent pas non plus. C'est seulement pour la peine de mort qu'on invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions extrêmes. Ce n'est pas exact. Partout, dans le monde, et sans aucune exception, où triomphe la dictature et le mépris des droits de l'homme, partout, vous y trouverez inscrite, en caractère sanglant, la peine de mort. Ce partage du monde ne résulte pas d'une simple coïncidence, mais exprime une corrélation. La vraie signification politique de la peine de mort, c'est bien qu'elle procède de l'idée que l'État a le droit de disposer du citoyen jusqu'à lui retirer la vie. C'est par là que la peine de mort s'inscrit dans les systèmes totalitaires. Je sais qu'aujourd'hui, et c'est là un problème majeur, certains voient dans la peine de mort une sorte de recours ultime, une forme de défense extrême de la démocratie contre la menace grave que constitue le terrorisme. La guillotine, pense-t-il, protégerait éventuellement de la démocratie au lieu de la déshonorer. Cet argument procède d'une méconnaissance complète de la réalité. En effet, l'histoire montre que s'il est un type de crime qui n'a jamais reculé devant la menace de mort, c'est le crime politique. Et plus spécifiquement, s'il est un type de femme ou d'homme que la menace de la mort ne saurait faire reculer, c'est bien le terroriste. D'abord, parce qu'il l'affronte au cours de l'action violente. Ensuite, parce qu'au fond de lui, il éprouve cette trouble fascination de la violence et de la mort, celle qu'on donne, mais aussi celle qu'on reçoit. Le terrorisme, qui pour moi est un crime majeur contre la démocratie, a pour cri de ralliement, quelle que soit l'idéologie qui l'anime, le terrible cri des fascistes de la guerre d'Espagne. Viva la muerte, vive la mort! Alors croire qu'on l'arrêtera avec la mort, c'est illusion. Allons plus loin. Vous savez en effet qu'aux yeux de certains, et surtout des jeunes, l'exécution du terroriste le transcende, le dépouille de ce qui a été la réalité criminelle de ses actions. En fait, et cela en fait une sorte de héros qui aurait été jusqu'au bout de sa course, qui, s'étant engagé au service d'une cause, aussi odieuse soit-elle, l'aurait servi jusqu'à la mort. Ainsi, loin de le combattre, la peine de mort nourrirait le terrorisme. À cette considération de fait, il faut ajouter une donnée morale. Utiliser contre les terroristes la peine de mort, c'est pour une démocratie faire sienne les valeurs de ces derniers. Cette tentation, il faut la refuser, sans jamais pour autant composer avec cette forme ultime de la violence, intolérable dans une démocratie qu'est le terrorisme. La vérité est que, au plus profond des motivations de l'attachement à la peine de mort, on trouve, inavouée et le plus souvent la tentation de l'élimination. Ce qui paraît insupportable à beaucoup, c'est moins la vie du criminel emprisonné que la peur qu'il récidive un jour. Et il pense que la seule garantie à cet égard est que le criminel soit mis à mort par précaution. Ainsi, dans cette conception, la justice tuerait moins par vengeance que par prudence. Au-delà de la justice d'expiation, apparaît donc la justice d'élimination. Derrière la balance, la guillotine. L'assassin doit mourir tout simplement parce qu'ainsi, il ne récidivera pas. Et tout paraît si simple, et tout paraît si juste. Mais quand on accepte, ou quand on prône la justice d'élimination, au nom de la justice, il faut bien savoir dans quelle voie on s'engage. Pour être acceptable, même pour ses partisans, la justice qui tue le criminel doit tuer en connaissance de cause. Notre justice, et c'est son honneur, ne tue pas les démons. Mais elle ne sait pas les identifier à coup sûr. Et c'est à l'expertise psychiatrique, la plus aléatoire, la plus incertaine de toutes, que dans la réalité judiciaire, on va s'en remettre. Que le verdict psychiatrique soit favorable à l'assassin et il sera épargné. La société acceptera d'assumer le risque qu'il représente sans que quiconque s'en indigne. Mais que le verdict psychiatrique lui soit défavorable et il sera exécuté. Quand on accepte la justice d'élimination, il faut que les responsables politiques mesurent dans quelle logique de l'histoire on s'inscrit. Aussi terrible, aussi audacieux que soient leurs actes, il n'est point d'homme en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer totalement. Aussi prudente que soit la justice, aussi mesurée et angoissée que soient les femmes et les hommes qui jugent, la justice demeure humaine, donc faillible. Parce qu'aucun homme n'est totalement responsable, parce qu'aucune justice ne peut être totalement infaillible, la peine de mort est moralement inacceptable. Pour ceux d'entre nous qui croient en Dieu, lui seul a le pouvoir de choisir l'heure de notre mort. Pour tous les abolitionnistes, il est impossible de reconnaître à la justice des hommes ce pouvoir de mort, parce qu'ils savent qu'elle est faillible. Le choix qui s'offre à vos consciences est donc clair. Ou notre société refuse une justice qui tue et accepte d'assumer, au nom de ses valeurs fondamentales, celles qui l'ont faite grande et respectée entre toutes, la vie de ceux qui font horreur, démons ou criminels, ou les deux à la fois, et c'est le choix de l'abolition. Ou cette société croit, en dépit de l'expérience des siècles, faire disparaître le crime avec le criminel, et c'est l'élimination. Cette justice d'élimination, cette justice d'angoisse et de mort, décidée avec sa marge de hasard, nous la refusons. Nous la refusons parce qu'elle est pour nous l'anti-justice, parce qu'elle est la passion et la peur triomphant de la raison et de l'humanité. La peine de mort est un supplice, et l'on ne remplace pas un supplice par un autre. J'en ai terminé. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, d'exécution furtive, à l'aube, sous le dé noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. À cet instant, plus qu'à aucun autre, j'ai le sentiment d'assumer mon ministère, au sens ancien, au sens noble, le plus noble qui soit, c'est-à-dire au sens de service. Demain, vous voterez l'abolition de la peine de mort. Législateur français, de tout mon cœur, je vous en remercie.
Et moi, je vous remercie, Arnaud, de nous partager ces extraits de texte, puisque le discours dure 1h30. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter.
Moi, je trouve ce texte encore d'actualité. À chaque fois, en particulier pour tous les terroristes qui nous attaquent et qu'on arrive à capturer vivants, quasiment systématiquement, il y a toujours une frange de la population qui dit « mais il mérite la mort, il a tué, etc. » Et je trouve que voilà, ça fait toujours du bien de relire ça à l'aune de ce qu'on vit malgré tout, parce que voilà, il explique par une rationalité, une argumentation brillante, que malgré tout, une justice, un homme n'est pas jamais totalement coupable et la justice est structurellement faillible, car humaine. Voilà. Et je trouve que ça fait du bien de réentendre ça.
Et on en a d'ailleurs l'exemple encore dans certains pays. Je vais citer les États-Unis qui remettent la peine de mort et on sait.
Le Texas, la Chine, voilà. La Corée du Nord.
Et on sait qu'il y a des personnes, de toute façon, sur le principe. C'est une grande sauvagerie, mais en plus, pour parfois, en fait, condamner à mort des gens qui sont exécutés et qui sont innocents.
Exactement. Voilà. Et il y a des gens qui vivent depuis 20 ans dans le couloir de la mort, sans savoir quand est-ce que ça va se faire. Et pour ça, personne ne peut mériter ça.
En tout cas, moi, cet après-midi, j'ai écouté une grande partie du discours de Robert Badinter. Et j'ai aimé que vous le lisiez à votre manière et avec votre force. J'ai vraiment, moi, senti beaucoup d'émotions. Ça m'a donné beaucoup d'émotions avec votre manière de le dire. Et comme je vous connais aussi.
C'est gentil. C'est gentil. J'essaye de mettre un ton peut-être moins théâtral, moins grandiloquent, si, parce que je n'ai pas à m'adresser devant une assemblée de 500 personnes. Peut-être un peu plus moderne, mais voilà. Mais il essaie de faire vivre ce texte. Il est très beau.
Oui. Autre chose, Arnaud ?
Non. On va essayer d'en trouver un autre.
Aussi puissant.
Aussi puissant, voilà. C'est compliqué, mais j'ai quelques idées.
Bon, d'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup.
Merci.
À une prochaine fois.
Oui.
Et au revoir à tous les auditeurs. Et à bientôt.